Et Marion, aujourd'hui tu reçois Alice de l'association féministe Les Impudentes. Bonjour à vous deux.
Salut.
Bonjour Alice, tu viens nous parler des Impudentes, une association féministe d'éducation populaire qui existe depuis 2018 et tu en fais partie. Alors pour commencer, on va présenter brièvement vos actions. Une partie de votre travail consiste à intervenir dans le milieu festif pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et pour cela, vous avez conçu un dispositif, une caravane qui se déplace de festival en festival afin de proposer un espace safe, autrement dit sécurisé. Le but est d'apporter une écoute, un lieu pour bouquiner ou bien de proposer des documents du planning familial ou encore des préservatifs. Et il s'agit de la première phase de votre travail. Et en premier, pourquoi les lieux festifs, tout particulièrement, sont propices aux violences et oppressions, notamment pour les femmes ?
Je pense que, bon après, j'ai l'impression que tous les milieux sont propices aux violences sexistes et sexuelles, mais c'est vrai que le milieu festif, on en a parlé quand même assez tardivement, j'ai l'impression. Donc c'est une thématique qui a été médiatisée plutôt en 2018, parce que c'est un lieu où on est là pour décompresser, où il n'y a pas beaucoup de réflexion, il n'y a pas beaucoup d'articles universitaires un peu sur ces questions, parce que c'est un moment où on décompresse, on boit, on se lâche un peu, on écoute de la musique, etc. Donc c'est pas comme le milieu du travail peut-être, ou voilà, le milieu universitaire, on va dire. Et donc la question c'était...
Et donc, c'est
pourquoi
vrai
c'est propice ?
Oui, pourquoi c'est propice d'après toi ? Quel type de violence les jeunes peuvent-ils rencontrer ?
Parce que souvent il y a un peu une espèce de justification, je vais mettre entre parenthèses, du fait d'avoir pris de la drogue ou de l'alcool à être relou, à dépasser un peu les limites et à être... souvent, on entend la phrase « Non, mais là, il est bourré. En vrai, c'est un chic type. Enfin, il est sympa. Là, il est bourré. » quoi. Donc, c'est un peu la justification. Et donc, souvent, il va y avoir... souvent, il y a 94% des violences sexuelles qui sont faites par quelqu'un qu'on connaît. Donc on est loin de l'image du violeur dans une ruelle sombre avec une cagoule. Et en fait, très souvent, moi, dans les témoignages que j'ai, c'est par des gens qu'on connaît. Donc ça va être dans les bandes de copains, copines. Ça va être par son petit copain ou sa petite copine. Et donc voilà, ça va être pour rigoler, je vais te mettre une main aux fesses. Pour rigoler, je vais te faire des blagues un peu sexuelles. C'est la fin de la soirée, tout le monde va se coucher, donc je vais me mettre à côté de toi pendant que tu dors, je vais te toucher, mais c'est pas trop de ma faute, j'ai pas trop fait exprès parce que j'étais bourré, il faisait noir, etc. Enfin, il va y avoir pas mal d'excuses, en tout cas dans ce milieu-là, quoi. Ou alors, pendant les concerts, c'est aussi propice, on est serré. Souvent, les témoignages que j'ai entendus, un peu le premier réflexe, c'est il y a quelque chose qui m'a touché derrière moi, mais en fait, je ne sais pas si la personne elle a fait exprès ou pas, parce qu'en fait, il y a la foule, etc.
Et est-ce que cette caravane, pour toi, elle pourrait aussi être un moyen pour toucher des publics qui, d'ordinaire, ne se seraient pas adressés à vous ?
En milieu festif,
tu veux dire ? Oui, en milieu festif. Est-ce que vous touchez des publics qui ne se seraient pas forcément adressés à une association féministe, comme les Impudentes, qui ne se seraient pas confiés ?
C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont... en ce moment, le féminisme, c'est assez médiatisé, donc on en entend parler. Mais par contre, l'occasion d'en discuter avec des gens, il n'y en a pas forcément d'en discuter en face à face, il n'y en a pas encore beaucoup. Et en fait, au tout début, l'idée, quand on a monté l'asso avec une copine, c'était de dire, en fait, dans les espaces publics, dans les espaces festifs, ça manque de lieux féministes, on va dire. Et aussi, on voulait avoir une caravane un peu jolie avec l'espace safe, c'est l'intérieur de la caravane et ça n'a pas été sur tous les événements non plus. Mais c'était d'avoir un espèce de coin un peu chill, un peu cocon qui donne un peu envie de venir se poser avec des BD, des brochures féministes et d'en profiter pour aborder ces questions-là. Donc un lieu cool, on va dire, pour être... un lieu cool féministe pour essayer justement de casser aussi ces clichés... On est féministe, mais on sait s'amuser aussi, et on a, dans les clichés qu'il peut y avoir, je sais pas si tu vois. Mais...
Oui, et pour mettre en place cette initiative, donc, vous vous êtes rapprochés des organisateurs et organisatrices des festivals pour co-organiser ensemble. De quel constat, un constat précis, de quel constat êtes-vous parti pour concevoir ce projet ? Est-ce que, pour vous, c'est aussi l'occasion d'apporter une aide pour pallier à un manquement ?
très rapidement, en fait, la copine qui est cofondatrice, qui s'appelle Marie Bienvenue, elle faisait un stage donc avec le collectif des festivals, avec donc elle avait été par exemple à Panorama, et donc ils se démenaient avec un espèce de petit... Panorama, c'est un festival électronique dans le Finistère, le public est assez jeune, ça prend vraiment beaucoup de drogue. Et en fait, donc ils avaient leur petit stand de prévention où ils essayaient d'aborder ces questions. C'était hyper compliqué et les gens sont drogués à fond. Enfin, voilà. Et en fait, la copine, elle disait, en fait, les concerts, c'était des... Enfin, elle entendait des concerts où, en fait, il y avait des appels au viol dans les paroles et tout ça. Enfin, il y avait... Du coup, c'est pas cohérent, nous faites pas venir, en fait, si... Et on s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, les orgas, quand ils nous appelaient ou quoi, il y avait un truc de caution féministe, de « c'est bon, j'ai mon petit stand, je m'en occupe ». Et en fait, nous, de dire « en fait, non, maintenant, quand on intervient, on veut que ce soit une vraie thématique qui soit réfléchie ». Et là, on était au festival Vision, par exemple, cet été, qui est un festival, on va dire, de musique électronique à côté de Brest, à Plougonvelin. Et donc là... Bah, les orgas, ils sont vraiment mis dans cette thématique. Il y a eu deux personnes référentes. Nous, on a fait une formation sur cette thématique. Il y avait vraiment des bénévoles. Enfin, jamais vu quasiment autant de trucs mis en place. Ils essaient de faire une parité aussi parce que bah, dans le festival de musique, c'est 90% des artistes, c'est des mecs. Enfin, déjà, ça pose question.
Et donc, vous êtes inspiré de ça pour mettre en place votre caravane, c'est ça ? Du festival Panorama, de ce que vous avez pu... voir, de ce que vous avez pu constater, ça vous a amené en fait à créer cette caravane ensuite ?
Moi, j'y étais pas à ce festival, mais je pense que ça a participé. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont participé. À partir du moment où on est arrivé avec la caravane, en fait, souvent, on s'est retrouvés de même pas où on nous défrayait même pas pour venir. Et de, en fait, j'ai pas envie de donner de mon argent. Enfin, déjà, la caravane, ça a été tout notre argent. Au début, on était toutes les deux à RSA et c'est... On a demandé des petites aides, etc. Mais au début, on met toute notre poche. J'étais là-bas. En fait, c'est pas normal. Et on n'est pas juste des bénévoles. Ça nous fait pas spécialement plaisir. Enfin, je veux dire, j'ai d'autres trucs fun à faire dans ma vie, plus fun que ça. Et du coup, de dire, OK, en fait, il y a du travail en amont, vraiment. Et on peut pas juste arriver comme ça. Et
ce travail, il se fait aussi au sein des festivals, justement. C'est une co-organisation. Pourquoi c'était important pour vous que ça se fasse Vous êtes alliés avec les festivals pour faire ça. C'est important de mettre en avant justement ces questions-là pour eux.
Oui, parce qu'avoir juste un petit stand dans un coin, même si nous on est de bonne volonté, ça ne change pas grand-chose. C'est une ambiance en fait que tu poses. Et quand tu communiques avant ton événement pour dire que tu refuses ces comportements-là, quand tu mets des affichages partout dans ton événement, quand l'équipe d'orgas et l'équipe de bénévoles, les artistes, quand tout le monde sait... qu'il y a une charte sur ces questions-là et que ça pose une ambiance. Nous, on a tout le temps plein de retours parce qu'on va mettre des affichages partout dans le festival où les gens, il y a des personnes qui ont des poitrines qui vont dire « Merci, je me sens plus à l'aise en fait pour enlever mon t-shirt » ou alors des témoins qui vont plus oser réagir quand il y a un comportement relou, etc. Enfin, c'est vraiment une ambiance que tu poses, notamment en fait quand, dans les concerts, il y a plein de gens qui disent le fait qu'il y ait des meufs ou des personnes non-binaires ou des personnes ou des personnes trans qui joue, et ben en fait ça pose une ambiance qui est plus safe que quand t'es entouré de mecs et quand tout le monde à la régie, enfin qu'il y a des hommes cis qui vont être partout quoi, ça pose une ambiance.
Et toi personnellement pour choisir de t'impliquer dans cette caravane et dans l'association Les Impudentes, est-ce que tu as eu dans ton parcours des expériences ou une prise de conscience qui t'ont amené sur la voie du militantisme?
Waouh. Je pense que ça fait longtemps que j'ai une sensibilité aux questions de justice sociale, vraiment super longtemps. Et depuis que j'ai 17 ans, je suis bénévole dans l'association des éclaireuses et éclaireurs de France. Donc j'ai toujours un petit peu été militante. Donc là, j'ai 29 ans, ça fait... Combien ça fait ? Ça fait 12 ans.
12 ans.
Et donc que je suis dans Les Impudentes, ça fait 3 ans et demi. Mais avant ça, j'étais dans une association qui s'appelle le CRIDEF, qui fait de la sensibilisation sur les questions de justice sociale. Enfin, j'ai fait quand même pas mal de trucs et en fait, après, là, les violences sexuelles en milieu festif, hein, moi, j'ai conscientisé qu'à 25 ans que j'en avais vécu entre mes 15 et mes 20 et de me dire, ah, en fait, je m'en étais même pas rendu compte avant alors que je travaillais déjà sur les questions féministes et du coup, de dire, j'ai envie que... C'est pour ça aussi qu'on va animer des discussions avec les ados, c'est... En fait, si on m'avait fait des discussions, si j'avais eu des discussions quand j'étais ado, je pense que ce serait beaucoup moins arrivé. Les mecs n'auraient pas forcément été moins cons, mais en tout cas, peut-être que ça aurait changé des choses.
Et justement, une autre partie de votre travail consiste à faire des ateliers de prévention auprès des 12-25 ans. La sexualité et le genre sont les deux grands thèmes. D'ailleurs, à cette époque, de plus en plus de jeunes se posent des questions pour repenser les relations amoureuses et aborder les questions de genre. Existe-t-il un lien entre ces interrogations actuelles et vos ateliers d'éducation et de prévention? Comment viennent-ils s'inscrire dans l'air du temps? Comment c'est, par rapport aux interrogations des jeunes, ouais. Comment ces ateliers viennent-ils répondre à ces interrogations actuelles?
Je sais pas si ça va être exactement... Je pense que en tout, ma réponse fera partie, mais... Enfin bref, je vais essayer de... Déjà, en lien par rapport à l'association, nous, on s'est rapidement dit qu'on voulait faire de la pré-prévention, et comme je disais, en fait, bah déjà, ça se passe dès la crèche, qu'il y a une éducation, on va dire, genrée. Mais en tout cas, de la question des violences sexuelles en milieu festif, en parler à l'adolescence, c'est hyper important, et que souvent, en fait... Il y a pas mal de tabous autour de la sexualité, alors qu'a priori, tout le monde a une sexualité, même si t'es asexuel, c'est-à-dire que t'as pas envie ou d'avoir de relations sexuelles. Je veux dire, c'est une sexualité aussi. Et du coup, c'est hyper important dans l'épanouissement personnel, en fait, qu'on puisse t'apprendre à dire c'est quoi, qu'il y a plein de sexualités, que t'es pas bizarre, que tout est OK à partir du moment où t'es toi et à partir du moment où tu respectes l'autre. Et... Enfin, maintenant, on est dans des... Comment dire ? L'éducation à la sexualité, l'éducation nationale, depuis 2002, il y a quand même tout un programme qui existe. Et en fait, chaque établissement, entre la primaire et le lycée, on est censé avoir 3 interventions sur l'éducation à la sexualité par an. C'est pas du tout respecté. Après, l'anatomie, ça va en faire partie. Parler des règles, parler de grossesse et d'IST. Enfin... de l'épanouissement personnel, de son rapport à l'autre, etc. Quand on regarde, franchement, c'est pas mal fait, en vrai, mais c'est pas du tout respecté. Et souvent, quand on dit éducation à la sexualité, on va parler que de grossesse et d'IST, alors que, en tant que meuf qui a un vagin, ton premier risque, c'est pas de tomber enceinte, c'est de subir des violences sexuelles. Et du coup, en ce moment, depuis MeToo, on en parle de plus en plus. Et... L'Internet mondial, il peut y avoir plein de défauts. C'est un outil, donc c'est comment tu l'utilises. Mais donc, il y a plein de groupes, j'allais dire Facebook, mais je suis grave une boumeuse, Instagram ou je sais pas, enfin qui parlent de ces questions, où les gens, ils peuvent témoigner. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je fais des ateliers, enfin, quand on fait des discussions avec les ados, ils connaissent des définitions, des concepts que moi, j'étais à milieu d'imaginer il y a 15 ans, quoi.
Et justement, est-ce que vous avez le sentiment de vous emparer de sujets qui restent encore tabous dans l'éducation nationale et donc de pallier à un manquement?
C'est de moins en moins tabou quand même. Enfin, je pense qu'on aurait fait ça il y a 10 ans, on aurait été complètement précurseuses, etc. Et c'est pas non plus le cas. Et c'est pour ça aussi, nous, on est un peu victime de notre succès, entre guillemets, parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup. Là, on vient de faire un apéro de rentrée, mais sinon, on est une petite dizaine et c'est assez... On rame pas mal, et c'est pour ça que tu vois, je te disais, le site internet, il y a encore plein de trucs à changer, etc. Mais on a vraiment beaucoup de demandes, quoi. Et en fait, on peut pas répondre à tout, et c'est pour ça qu'en ce moment, à la base, on voulait aller dans les collèges lycées, enfin, on veut toujours le faire, mais là, on s'est dit, on a beaucoup de demandes, et du coup, on attend un petit peu, donc on a fait pour l'instant que dans l'association des éclaireuses et éclaireurs de France. Je sais plus si je réponds à ta question.
Oui, c'était justement comment vous aviez l'impression, en quelque sorte, pas de remplacer le rôle de l'éducation nationale, mais d'apporter quelque chose en plus que eux n'apportent pas.
Et on a fait des formations avec le planning familial et les associations de prévention qui interviennent en milieu scolaire. Elles nous ont dit, mais venez sur le marché, entre guillemets. Nous, on est débordés, on peut pas répondre à tout. Et du coup, je pense qu'il y a le fait, peut-être, on va dire, j'en sais rien, des CPE, peut-être des profs, etc., mais il y a aussi et surtout en fait un manque d'associations qui parlent de ces questions-là, quoi.
Et votre association s'inscrit dans le courant de la pensée de l'éducation populaire. C'est avec le partage de vos différents vécus que vous menez ces ateliers. Pensez-vous répondre ainsi aux préoccupations actuelles des jeunes? Pourquoi en partageant vos vécus, vous pouvez apporter quelque chose à ces jeunes ?
Aujourd'hui, l'éducation mainstream, on va dire, j'arrête pas d'utiliser les guillemets avec mes doigts, j'arrête de faire ça. Dans l'éducation mainstream, il y a un peu un truc de nous, il y a les connaissances déjà qui existent, vous, vous restez assis en face de nous et vous allez écouter ce qu'on va vous apprendre, ce qu'on a à vous apprendre. Le courant de l'éducation populaire, c'est de dire, ok, il y a ces savoirs-là qui existent, mais par contre, toi, tu as ton vécu en tant qu'humain, et en fait, ça aussi, c'est intéressant. Et je sais que, par exemple, dans l'association des éclaireuses et éclaireurs de France, qui a un mouvement d'éducation populaire, il y a un truc de développer un peu l'esprit critique, apprendre à réfléchir par soi-même. Et en fait, pour moi, je ne peux pas animer un atelier d'éducation à la sexualité juste en leur disant « voilà comment ça se passe, voilà ce que c'est les différentes sexualités ». Et c'est de dire, ils ne vont pas m'expliquer leur rapport, comment ils ont leur rapport, je m'en fous. Mais en tout cas, il y a un partage, on va être assis en cercle. Et du coup, des fois, on va donner des définitions. Mais souvent, ça va être même à travers des petites vidéos, des petits podcasts et de comment vous, vous... En fait, qu'on leur demande leur avis, quoi. Et souvent, en fait, on ne demande pas l'avis. Moi, j'ai trop le souvenir, j'avais animé un atelier sur la laïcité, parler d'islamophobie. Et il y avait un élève qui m'avait dit, mais en fait, vous ne pouvez pas nous demander notre avis, nous, on n'en sait rien. Enfin... Nous, on n'est que des élèves, quoi. On ne peut pas avoir d'avis sur ces questions-là. Et pour moi, c'est trop symbolique de ce que l'éducation nationale... Toute ta vie, on te dit maintenant, t'écoutes et tu fermes ta gueule. Et nous, en fait, non, t'as forcément un avis dessus. Et c'est hyper important pour atteindre un peu une transformation sociale, on va dire.
Et donc, il s'agit de votre travail auprès d'ados, mais vous préparez aussi des ateliers en mixité choisie. Peux-tu définir la mixité choisie et nous dire ce que ça vous apporte. Pourquoi est-il pertinent de privilégier aussi des moments en mixité choisie ?
Du coup, il y a plein de mixités choisies différentes. Nous, ce qu'on avait choisi au début, mais parce qu'on l'a monté, on était deux femmes, cis. Et du coup, on s'était dit, on va faire mixité choisie sans mec cisgenre.
Un homme cisgenre ?
Un homme cisgenre, du coup, c'est qui a été assigné comme homme et qui se reconnaît en tant que tel. Et donc, au début, ça a été comme ça et c'est un petit peu resté comme ça. Et de se dire, c'est pas toujours le cas, ça dépend des événements, ça dépend des personnes qui animent, on va dire, la caravane. Mais l'intérieur de la caravane, on voulait que ce soit un espace safe et du coup un espace en mixité choisie, sans hommes cisgenre donc. Parce qu'il y avait un truc de la plupart des violences sexuelles, 98%, c'est perpétré par des hommes cisgenre. Et du coup, de dire... En fait, il y a beaucoup de femmes et ou personnes non binaires et ou d'hommes trans qui vont avoir vécu des violences sexuelles par des hommes cisgenres et du coup qui vont pas arriver à se confier. En fait, c'est beaucoup plus dur. Je sais que la plupart des témoignages, ça va être auprès plutôt de, enfin voilà, de copines ou quoi. Et donc, nous, c'était de dire, là, on veut se rassembler là pour pouvoir se confier, pour pouvoir être plus à l'aise. Sachant qu'on nie pas du tout que... Enfin, on dit pas que les hommes cisgenres ne vivent pas de violences sexuelles, loin de là, malheureusement. Et ça, on l'enlève pas du tout. Et nous, sur le coup, c'était juste, on va parler en tant que première concernée. Et du coup, en tout cas, au tout début, c'était... on veut parler de ce qu'on connaît. Et du coup, ça, on connaît moins, donc on va moins en parler. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas et je pense que nos réflexions, elles évoluent. Et on était plusieurs à se dire, peut-être que parce qu'en fait, l'association, elle est en mixité choisie sans hommes cisgenre. Et donc, on se disait, peut-être qu'on va étendre l'association. Enfin, je dis ça, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est acté ni rien. Mais on était plusieurs à se dire, peut-être qu'on pourrait ouvrir l'association et dire en mixité choisie sans hommes cisgenre hétérosexuel. Voilà.
Ok, c'est important pour vous d'être entouré de personnes justement qui vous ressemblent, qui vous comprennent par rapport à vos expériences communes.
Ouais. Et sachant que, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens que ça gêne énormément de se dire et qui disent mais c'est de la discrimination. Déjà au niveau de la loi, faut regarder la définition de la discrimination, mais c'est pas, ça c'est pas de la discrimination. Mais en fait, des endroits en mixité où il y a que des hommes, en fait c'est partout, dans beaucoup d'endroits, tu rentres dans un PMU, en fait c'est en mixité choisie, en tant que meuf, quand je rentre dans un PMU, franchement il y a tous les regards qui se tournent vers toi, enfin tu te sens vraiment pas à l'aise, et ou si t'es technicienne, si t'es ingé son par exemple en festival, tu vas être entourée de mecs, enfin il y a beaucoup, beaucoup de milieux, en fait, qui sont... Et sinon, en vrai, c'est que bah, quand t'es infirmière ou quand t'es aide maternelle, tout ça, là, oui, tu te retrouves entre meufs, mais sinon, les autres espaces, ils sont pas forcément ouverts. Et du coup, il y a un moment pour pouvoir prendre du pouvoir, et ben en fait, il y a besoin de se rassembler pour pouvoir s'organiser. Et ça veut pas dire qu'on veut plus jamais voir de mecs cisgenres hétéros, qu'ils sont tous des connards, etc., mais juste... Bah, y a
c'est juste pour un moment.
Voilà, il y a des moments où on a besoin de se retrouver.
On l'a compris. Et donc, pour conclure, vous recherchez également des bénévoles pour continuer vos actions cette année. Et en quoi consiste le rôle de bénévole? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les profils recherchés?
Oui, du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, on était une dizaine. Il y a eu le Covid, tout ça. Ça a été quand même un peu compliqué. On a continué à s'auto-former, à quand même essayer de maintenir l'association. Et donc là, on vient de faire un apéro de rentrée. Ça s'est passé au CRIDEV jeudi à 18h30. Et donc, il y avait pas mal de monde. Il y avait plus d'une bonne trentaine de personnes, je pense. Donc après, on va voir, mais... bah, donc c'était en mixité choisie, sans hommes cis genre.
C'était une réussite pour toi?
C'est vous, ouais, vous attendiez grave, ça à fait... ça? Ouais, ça fait plaisir. Enfin, on s'attendait à rien, je crois. Mais oui, ça fait plaisir de voir que c'est une thématique qui touche et qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir. Et pour moi, il n'y a pas de critères. Enfin, très souvent dans l'association, j'ai entendu plein de copines dire « Ah, mais moi, je ne me sens pas hyper légitime parce qu'en fait, je ne m'y connais pas à fond, je blablabla bla, ». Bla. Et de dire, en fait, à partir du moment où tu as vécu, enfin, en fait, en tant que... Enfin, en tant que personne sexisée, on va dire, tu as vécu des violences dans 99,999% des cas. Et du coup, tu es experte, comme on disait, c'est comme les ateliers, en fait, tu es experte de ce que tu as vécu. Et du coup, tu es légitime à être là, il est temps de se sentir légitime. Et du coup, c'est pas parce que t'as pas fait un master en féminisme, que t'as pas lu 20 000 trucs, que ça fait pas 10 ans que t'es engagée, que sinon, en fait, on s'en sort pas. Là, on est là pour apprendre ensemble, en fait. Et que c'est OK, il y a des mots qu'on connaît pas et ouais... On va s'auto-former et l'important quand tu viens, pour moi, quand tu t'engages dans une asso, c'est d'être là pour te former. Et former, on s'apporte mutuellement des choses et là pour kiffer aussi, te faire des copains et des copines.
Très bien. Merci Alice d'être venue.
Merci
et si vous souhaitez contacter l'association, il existe le site internet Les Impudentes ou bien la page Facebook du même nom. C'est bien ça?
Ouais, tout à fait. Et il y a l'adresse mail, c'est contact@lesimpudentes.fr. N'hésitez pas si vous voulez vous engager. Du coup, là, c'est un peu la rentrée. Vous pouvez grave nous envoyer un message. Voilà, ça va être chouette.
Très bien, le message est passé.
Merci Marion. Encore merci Alice d'être passée dans les studios.